Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans l'émission quotidienne de football, Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Et pour commencer aujourd'hui nos débats du jour, nous évoquerons une 100e des Bleus au Stade de France. L'équipe de France a déjà joué 99 matchs dans cette enceinte, marquée par la victoire en Coupe du Monde 1998, bien sûr, mais aussi d'autres victoires et des défaites par des gestes aussi de certains joueurs. Bref, 21 années riches en émotion, vous l'entendrez. Les Pays-Bas impressionnent, 8 buts en 2 matchs d'éliminatoire. La nouvelle génération qui perpétue le style de l'Ajax enrichira-t-elle enfin le palmarès orange? Cette sélection a bien des atouts et pourrait être l'équipe à battre au prochain Euro. Noël Le Graët et Michel Platini, deux hommes qui ne s'aiment guère mais qui sont dans l'actualité du jour. Le président de la FFF pour ses propos au sujet de la lutte contre l'homophobie au stade. Et puis l'ancien président de l'UEFA pour sa stratégie de retour dans le monde du football. Sujet qui, j'espère, prêteront à discussion. Philippe Doucet, bonjour.
Bonjour madame Annie.
Notre ami de Canal+, qui est là aujourd'hui. Étienne Moati, autre camarade, lui, de l'équipe. Bonjour Étienne.
Bonjour à tous.
J'espère que ça vous inspire aussi, ces sujets.
Beaucoup.
On va voir ça. Chérif Guémour, bonjour, là j'en suis sûr.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour. Et puis il y a Frédéric Suto aussi. Bonjour Frédéric.
Salut Annie, bonjour tout le monde.
Radio Foot, c'est parti.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Stade de France. Ce 28 janvier est une journée historique. La France possède enfin un stade digne de ce nom, un stade de
majestueux et chaleureux, esthétique et confortable. Malgré un froid sibérien, le Stade de France a réussi avec brio son premier examen.
But de Zidane après ce ballon qui rebondit sur le poteau. Premier but officiel donc marqué au Stade de France. Espérons que la série française continuera jusqu'au 12 juillet.
Un ballon pour Thuram, pour Petit tout seul, qui frappe et qui va. Et qui marque ! La France va être championne du monde ! 3-0 ! C'est fini ! La France, pour la première fois de son histoire, championne du monde de football dans sa Coupe du Monde, organisée sur son sol.
Mamadou Sakho, il aura un lien avec Lilian Thuram qui n'avait jamais marqué en bleu, qui avait marqué 2 buts face à la Croatie.
Le France-Ukraine au Stade de France... certainement marqué la mémoire des supporters français, mais également des joueurs qui étaient présents ce jour-là.
La France est au Brésil, ils l'ont fait. Bravo à Didier Deschamps, bravo à toute l'équipe de France.
Et c'était certainement ce match-là qui nous a donné un élan positif pour la suite.
Attention, Eder servi par Joao Moutinho, il résiste à la charge de Laurent Koscielny. Ah, il frappe du droit à terre. Portugais et qui libère le Portugal face à l'équipe de France ce soir, une fois venu un peu de nulle part.
Alors ce serait un événement si l'équipe de France perdait dans son Stade de France. Elle est invaincue en phase finale ici, donc ça serait peut-être la première défaite en match officiel en grande compétition pour l'équipe de France ici dans son stade fétiche de Saint-Denis.
Il y a également eu des très belles choses pendant l'Euro 2016, malheureusement il n'y a pas eu la fin que l'on souhaitait, mais voilà, en général c'est un stade avec des ondes positives pour les joueurs français.
Gagner la Coupe à la maison, c'était la mission de l'équipe de France en 1998, puisque la France était alors le pays organisateur de la compétition mondiale. Et le rêve devint réalité grâce à un doublé de la tête de Zidane et au troisième but de Petit, et 1 et 2 et 3-0 dans un Stade de France en délire construit pour accueillir la finale. Le capitaine des champions du monde de 1998, devenu le sélectionneur champion du monde 2018, Didier Deschamps, parle de ce lieu avec émotion au micro d'Olivier Pron.
Ce stade, après ce titre de champion du monde à 98, voilà, a pris encore un peu plus de valeur symbolique. C'est entre guillemets notre maison et c'est toujours un plaisir d'être dans ce stade. Aujourd'hui, On peut être fier d'avoir vraiment une ambiance de supporters et les joueurs ressentent bien ça, ce lien avec le public. Et pour l'adversaire, malgré tout, je ne veux pas dire qu'il y a de la crainte ou quoi, mais d'être dans ce stade, les dimensions du terrain sont censées être les mêmes, mais ça paraît un peu plus grand, un peu plus d'espace. Donc c'est plutôt des choses qui vont à notre faveur.
Didier Deschamps, donc le sélectionneur aujourd'hui, ancien capitaine qui a dû participer à une bonne partie de ces 99 matchs des Bleus. Et vous avez entendu tout à l'heure dans le résumé que Laurent Salerno nous avait concocté, notamment nos confrères Jean-François Pérez, alors à RFI, il y avait aussi Éric Chorin, Éric Mamrut, toujours là. Et on entendait aussi Hugo Lloris, l'actuel capitaine de cette équipe. Frédéric Suteau, ce stade, alors on se souvient des 78 368 spectateurs qui avaient défier le froid polaire du 28 janvier 98 pour l'inauguration, mais depuis on a pas mal de chiffres à retenir quand même.
Oui, alors on va pas vous noyer sous les chiffres, 99 matchs, il y en a des statistiques, mais sachez que les Bleus, l'équipe de France a gagné 65 matchs sur les 99, c'est quand même pas mal, 19 matchs nuls, 15 défaites seulement. Vous parlez des 78 000 spectateurs pour le premier match, la moyenne, l'assistance moyenne, c'est 71 000 spectateurs qui se déplacent en moyenne pour voir les Bleus au Stade de France. Les nations qu'on a vues le plus souvent, l'Allemagne, l'Espagne, sont venues 5 fois, le Brésil, la Roumanie, l'Ukraine, 4 fois, et puis les buteurs français qui s'y sentent le plus à l'aise, Thierry Henry, 20 buts au Stade de France, Olivier Giroud, qui sera là ce soir face à l'Andorre, 15 buts pour Olivier Giroud, c'est son jardin, David Trezeguet, 12 buts, Sylvain Wiltord, 11 buts, Zinedine Zidane a marqué 9 fois au Stade de France.
Messieurs, quels sont vos souvenirs au Stade de France? Étienne Moiti, on en a tous un au moins dans notre tête, on y va de temps à autre, au moins pour le travail. Quel est le souvenir que vous retenez, vous?
Il y a pas mal de souvenirs évidemment au Stade de France, parce que c'est devenu le stade de l'équipe de France, même si c'est pas un stade de foot, et qu'il n'y a pas véritablement une ambiance de stade de foot dans cette enceinte, même si ça s'améliore quand même. Ouais. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'ambiance, enfin c'est pas encore complètement ça. Moi, le souvenir que je retiens paradoxalement, parce que j'étais au stade et c'était une ambiance très particulière, c'était en novembre 2009, je crois, pour le France-Irlande qualificatif pour la Coupe du Monde 2010. Si on avait su ce que ça donnait, c'était pas la peine de se qualifier. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, les Irlandais menaient 1-0. On pouvait entendre une mouche voler dans le stade. Il y avait une tension terrible jusqu'à la main de Thierry Henry, les polémiques derrière. Et paradoxalement, c'est peut-être ce match-là qui m'a laissé le plus de souvenirs là-bas.
Philippe Doucet.
Chacun a sa madeleine. C'est une question de génération, en fait. Je pense que Étienne, comme moi, malheureusement, on est de la même génération. Et on a plus de souvenirs au Parc des Princes, en fait, parce que pour nous, le stade de base, c'est le Parc des Princes. Alors évidemment, ce qui m'a marqué le plus avec le Stade de France, c'est 98. Mais c'est pas mon stade, quoi. C'est comme Étienne le disait, c'est pas un stade de foot. C'est exagéré de sa part. C'est évidemment trop de dire ça, mais oui, quelque part, c'est pas notre stade, c'est pas notre génération, et c'est pas un vrai stade de foot. C'est un stade qui a été conçu, certes, pour la Coupe du Monde, mais aussi pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, ce sera très bien en 2024.
Il y a eu les championnats du monde d'athlétisme en 2003, et là, il y a eu une véritable communion pendant 10 jours avec le public, avec la piste qui était plus près des gradins que la pelouse.
Et c'est amusant, d'ailleurs, Bichente Lizarazu, des champions du monde de 98, dit dans le quotidien Le Parisien aujourd'hui, le Stade de France, c'est comme une église. Il dit qu'à chaque fois qu'il va à Roissy, il a évidemment un regard sur cette enceinte, mais effectivement il dit ce qu'il y a de dommage, c'est ce circuit d'athlétisme qui fait que ça sépare et que ça éloigne le public de la pelouse, on va dire, et de la ferveur, même si en tant que joueur il dit qu'il le ressent pas trop. Chérif Guémour, vous avez un souvenir, vous?
Ouais, pas mal, parce qu'en fait j'y suis allé assez souvent, un peu partout, dans les tribunes, en haut, en bas, proche, enfin bref. Et il y a le France-Algérie, j'y étais. Et je peux vous dire que 2 heures avant, on sentait les mauvaises vibrations. C'était on était en 2000 ans, ouais, c'est ça. Donc il y avait un très 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 particulier. C'est incroyable. Bon, après, bon, l'irruption,
la
fin
la
du match, un quart d'heure
sifflé,
la fin. Ouais, la Marseillaise sifflée. Non, mais
le
c'est
match
pire.
Arrêté.
Non, mais c'est pire que ça. Zidane aussi s'est fait siffler. On en a très peu parlé. Moi, j'y étais. Et c'est incompréhensible parce que je me rappelle autour de moi, il y avait des parents franco-algériens, de France, quoi, avec les petits mômes qui avaient des petits drapeaux sur les joues bleu, blanc, rouge et tout. Bah, c'est terrible, parce que là, c'est des enfants. Ça m'a marqué. Maintenant, on va rester un peu foot. Je me rappelle d'un duel fabuleux entre Zidane et Balak. Là, quand on voit ce que représente, il y a Zidane d'un côté qui emmène son équipe et Balak qui emmène la sienne. c'est titanesque. Là, on voit vraiment de près. Il y a 0-0 parce que c'est, voilà, c'est deux équipes qui se valent. Et puis après, il y a toute une série qui m'avait marqué. C'était après la Coupe du Monde. C'est les années fastes, 99-2001. C'est des matchs 5-0 contre la Croatie, le Portugal, l'Écosse, on y allait. C'était, voilà. Puis après, au niveau de l'ambiance, c'est, il n'y a jamais eu une vraie grande ambiance. Peut-être le match contre l'Ukraine.
Voilà, le match contre l'Ukraine. Mais
voilà.
C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il y a plus d'ambiance aujourd'hui au Stade de France, c'est vrai, Philippe.
La fédération a travaillé autour de ça.
Énormément,
il y a
énormément.
Les petits drapeaux, vous arrivez. Ouais, mais c'est...
Les drapeaux, ça ne fait pas de bruit, mais c'est vrai qu'ils existent. Il y a un petit peu plus d'ambiance aujourd'hui au Stade de France. Et ce qu'il faut souligner quand même, et ça, c'est une vraie réussite pour la fédération, c'est que le stade fait quasiment tout le temps le plein, ce qui est pas le cas.
Oui, c'est 80 000 places.
Ce qui est pas le cas pour les autres grandes sélections, donc européennes, qui ont du mal à remplir donc avec leur sélection. Et l'équipe de France,
c'est
recette.
C'est les organisations tournantes. En France, on est très très parisien, mais genre en Allemagne, Italie, Espagne, on change souvent de stade.
Ah bah, on est à la fois un pays centralisé, donc.
Même dans les supporters, on est centralisé. Tu vois,
ça aboutit à cela. Ouais. Et puis l'autre raison, c'est des contrats.
Oui,
ce stade, le gros défaut de ce stade, c'est qu'il n'a pas de club. On le sait bien.
Ouais.
Et que donc ce stade, il faut le financer pour le financer, il faut que les fédérations, à la demande de l'État, signent des contrats qui les contraignent énormément. Je dis les fédérations parce que c'est le cas du rugby également. Et du coup, on se retrouve avec un France-Andorre que je pense dans un autre temps, on aurait programmé ailleurs. On l'aurait programmé à Guingamp, à Rennes.
Il faut.
On en a déjà fait pas mal à Guingamp quand même.
Oui, non, mais on en aurait.
À Bastia, Ajaccio.
C'est vicieux ça. Bref. Non, mais on l'aurait programmé ailleurs parce que voilà, on serait attendu à pas le remplir. Mais cela dit, il y aura une chambrée tout à fait honorable ce soir encore. Plein contre l'Albanie. Ça montre que la fédération a effectivement énormément progressé sur le plan marketing. Ça, c'est clair.
Alors, on s'est amusé aussi avec notre stagiaire, avec Ralph Samoury, à chercher aujourd'hui. C'était tous ces stades, où y a-t-il beaucoup de stades dans le monde qui ont été construits en vue d'une finale de Coupe du Monde et une finale
peut-être
à gagner. Voilà.
Maracana, peut-être.
Alors, il n'y en a pas beaucoup, en fait.
Ah oui,
il y en a moins qu'on pense. Évidemment, le Maracana de 1950, mais alors, ils font pas comme la France en 98.
Oui, ils gagnent pas, ouais.
C'est le grand drame qu'on vous raconte à chaque fois que vous allez dans cette enceinte à Rio de Janeiro. C'est donc qu'ils perdent la finale de la Coupe du Monde de 1950. Eux aussi, ça va être le point de départ d'une nouvelle politique, d'un nouveau travail de la CBF, qui à l'époque ne s'appelait pas d'ailleurs la Confédération brésilienne de football, elle avait un autre nom, mais et qui va finalement au fil du temps aboutir en 58 à la première victoire. Et puis, eh bien, il y a le match, mais alors là, ça s'explique aussi. Le premier stade, c'est celui de Montevideo, voilà, construit parce que c'était la première Coupe du Monde.
34 aussi, il me semble, peut-être pour l'Italie.
Oui, à Rome.
Ouais. Il existait déjà en fait. Hein, on a cherché.
Bah, il y a Munich. Munich 72. Ah non, il est construit pour les Jeux.
Voilà, exactement.
Construit pour les Jeux, puis la Coupe du Monde.
Ouais, les deux.
Il y a des stades qui sont rénovés. Il y a des stades qui vont être rénovés en vue des compétitions, mais en tout cas construits dans le but et dans l'idée ou le rêve de s'imposer à domicile, c'est pas toujours très simple. En tout cas, c'est ce sur lequel on est arrivé. En tout cas, effectivement, cette enceinte, on a murmuré un peu à un moment qu'on aurait pu. Il y avait des rumeurs comme quoi on la détruirait parce qu'elle était
le stade.
Oui, non, mais pendant un moment, on s'interrogeait sur le devenir du stade, effectivement, parce que oui, il est symbolique en France, mais il est beaucoup critique.
Il est pas voilà, très fonctionnel. Bon,
là, on a les JO 2024 et ce sera le stade de l'athlétisme.
On ne sera pas réformé.
On a tellement peu de stades à Paris, si vous commencez à en détruire un, là, excusez-nous, mais
vous
là,
vous
ça va.
Rumeurs,
Non, mais ça va pas, là. Parce que déjà, on n'a pas de stade. Il
n'y
a pas de stade à Paris.
Parce
miraculeusement, grâce au rugby, il y a à nouveau quelques stades. Bon, profitons-en et ne les détruisons surtout pas, parce qu'on a trop peu.
Détruisons la piste.
Oui, détruisons la piste, mais il faut rapprocher les
après
tribunes.
2024,
est-ce que les adversaires ont peur de venir au Stade de France?
C'est un peu ce que sous-entend Deschamps.
Je pense que les adversaires ont davantage peur de rencontrer les champions du monde français et les énormes joueurs donc qu'il y a aujourd'hui en sélection, qu'il y a eu aussi par le passé. Je ne crois pas que le Stade de France en lui-même ait marqué les esprits et soit quelque chose de mythique pour nos adversaires. Je pense que c'est plus l'équipe de France qui impressionne.
C'est pas le Maracana de Belgrade ou les stades en Turquie. Enfin, tout c'est là, c'est vraiment des guet-apens. Là.
Oui. Et là, c'est plus que pour
ou
la structure,
Amsterdam,
l'histoire.
C'est
pour l'ambiance justement des supporters qui est très très chaude et voire redoutée.
Ça manque d'âme, ce stade. Ça manque un peu d'âme.
Oh, mais ça manque pas de palmarès en tout cas.
Peu d'équipes nationales ont un public vraiment à part en déplacement sur des coupes du monde.
Il y a Wembley qui a changé.
Chose. Oui, mais à domicile, il est rare qu'une équipe nationale génère une passion extrême. On voit dans les pays beaucoup moins décentralisés que la France. L'Espagne va jouer à Séville.
Ça a toujours été comme ça.
Oui, il va jouer loin pour arriver à avoir un soutien. Ouais. Si elle joue à Madrid, tout le monde s'en fout. Elle joue à Barcelone, encore plus. Mmh. Non, mais c'est vrai, c'est pas si évident que ça de générer la passion. Ouais. L'Italie aussi. Enfin, il y a plein de pays comme ça qui sont obligés d'aller souvent dans les petites villes pour, ou des villes moyennes, bien sûr, pour avoir des stades conséquents. Mais qui, pour remplir les stades et autres, c'est pas toujours évident.
Les conditions de sécurité aussi ont souvent un peu annihilé, du coup, certaines ambiances parfois, hein, où on ne peut pas, on y va en famille, on y va calmement, on y va, c'est pas
oui, le démonstration. Public, Philippe a raison, le public des sélections, c'est souvent un public plus familial que celui des clubs, où vous avez donc des supporters et des fans nettement plus passionnés. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas, comme Philippe, énormément de souvenirs très marquants d'ambiance terrible, donc, pour des matchs de sélection. Et finalement, on critique beaucoup la France, on critique beaucoup là, le Stade de France, on est en train de le faire et on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal loti que ça finalement, qu'on est parmi aujourd'hui les pays où il y a le plus d'ambiance, où il y a plus de monde, je le disais, et où on a pas mal de résultats aussi sportifs. De quoi se plaint-on?
Allez, on se plaint de rien et ce soir donc ce 100e match, ce sera France en
quelle France. Affiche
C'est bien joué ça. Et ça va aller jusqu'au bout avec cette finition clinique de Frankie de Jong.
Immense vague orange.
Et encore sur sa ligne. Quelle parade. Et la deuxième n'aura pas lieu. Deuxième but pour les Néerlandais.
Magnifique.
Et ça va jusqu'au bout avec le premier but en sélection pour le tout jeune Daniel Malen, attaquant du PSV Eindhoven.
C'est le bon moment là.
Quel festival.
Il va tenter le 1 contre 1 ou il va gagner du temps?
Oh, Wijnaldum. Gigi Wijnaldum. Il est au départ de l'action. Il est à la fin, au bout d'une course de plus de 40 mètres. Exceptionnel symbole de cette victoire tranchante et définitive des Pays-Bas ce soir à Hambourg. Gigi Wijnaldum et 4-2 pour les hommes de Koeman.
Nos confrères Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu qui commentaient ce match, donc cette victoire des Pays-Bas. 4 buts pour donc aller battre l'Allemagne à Hambourg et puis 4 buts hier pour vaincre l'Estonie. Les Pays-Bas soignent leur différence de but, ils soignent surtout leur style. La sélection néerlandaise aligne les victoires et montre surtout une mécanique orange bien huilée qui n'avait pas échappé à Joachim Löw avant la défaite des siens pourtant.
C'est un adversaire très rapide en contre. D'ailleurs, je compare l'équipe nationale néerlandaise à l'Ajax de la saison dernière. Nous avons vu jusqu'où ils sont allés en Ligue des Champions avec ce type de football basé sur la rapidité. Et puis leur sélectionneur, Ronald Koeman, est aussi issu de cette école, celle de l'Ajax et du FC Barcelone.
Alors on parle de l'Ajax, on parle du Barça, on parle de cette école évidemment, on repense à Johan Cruyff. Est-ce que c'est le retour de la Hollande comme on disait à l'époque de Cruyff, cher Gamour?
Bah déjà c'est bien de voir les Pays-Bas qui sont en passe de se qualifier pour un grand tournoi international. Ça, ils ont raté les deux derniers, l'Euro et la Coupe du Monde, donc c'est toujours une bonne nouvelle.
Oui, c'est une soif de revanche sur eux-mêmes et d'être présent à la prochaine compétition.
Puis en général, pour le jeu qu'ils proposent, et puis on parlait de supporters, c'est bien quand il y a la marée orange qui arrive.
Ça, oui.
On est en deuil de la marée écossaise, mais malheureusement, ils sont pas prêts de revenir. Non, c'est une bonne chose parce que c'est une équipe jeune, juvénile, qui joue très bien. Il parlait de notre ami Joachim Löw et tout, de la matrice Ajax. Historiquement, c'est vrai. C'est l'équipe des Pays-Bas, elle a tout, la matrice de l'équipe des Pays-Bas, c'est l'Ajax. Mais une équipe 100% Ajax des Pays-Bas n'a jamais gagné de tournoi. C'est toujours un mix, en général, avec le Feyenoord et le PSV. Le seul titre que les Pays-Bas ont gagné, c'est en 88, c'est l'Euro 88. C'est un mix, justement, de l'Ajax, des meilleurs de l'Ajax, et du PSV. Ça a toujours été comme ça. L'équipe des Pays-Bas est bonne quand il y a un bon mix, parce que bon, Feyenoord a fini par disparaître, mais c'est toujours un mix. Il faut les deux. Ça peut pas être une équipe 100% Ajax.
Mais les temps ayant changé, qui on a vu briller sur la scène européenne en Ligue des Champions l'année dernière, c'est quand même l'Ajax.
Oui, c'est eux qui entretiennent la dynamique. Mais Wijnaldum, c'est PSV. Depay, c'est PSV. Le petit Malen, c'est PSV. Faut jamais oublier. Mmh. Et puis après, bon, il y a les joueurs qui viennent un peu de Gronin, comme Van Dijk, qui viennent un peu. Il y a une matrice Ajax. Il y a une dynamique Ajax, mais ça suffit pas. Il faut vraiment toujours un encadrement. En gros, si vous voulez, c'est ce qu'on dit aux Pays-Bas, c'est que pour le style, le beau jeu, le romantisme, c'est l'Ajax, mais pour le rentre-dedans, pour le costaud et pour l'esprit de gagne, il faut comment les bourrons, c'est-à-dire les pécores, les bourrins du PSV, qui eux viennent de la campagne. Il faut les deux. C'est un bon mix pour gagner. Sinon Pays-Bas Ajax, ça ne gagne pas.
Philippe Doucet, vous
historiquement,
vous en arrivez à la même conclusion. Ça vous fait sourire.
Oui, les bourrins. C'est toujours marrant. C'est toujours marrant. Non, mais c'est bien parce que Chérif nous rappelle les vieux débats de foot qui n'existent absolument plus maintenant que le football est mondialisé et que tout le monde voit à peu près le foot de la même manière, presque. Mais de temps en temps, il y a quand même effectivement des ressuscés comme Chérif, comme l'Ajax surtout, plus que Chérif encore. Et effectivement, bon, on est heureux de revoir revoir à la fois l'Ajax l'année dernière et de revoir les Pays-Bas parce que là, la période était terrible. On avait vu cette équipe vieillir. Les sélectionneurs tournaient.
Mais c'était dû à quoi? C'était un manque de générationnel c'était un manque aussi d'initiative de la part des clubs, des fédérations?
Il y a eu des très mauvais choix de sélectionneurs aussi par moment. Donc, sans doute, ces sélectionneurs-là sont reposés sur des acquis, des certitudes et des vieux joueurs qui ne pouvaient plus.
On les a poussés au bout.
On a utilisé Van Persie jusqu'à ce qu'il ait sa canne, quoi. Enfin, j'exagère un peu.
Snyder, 35, 36 ans, Snyder
qui avait 10 kilos de trop. Enfin, c'était risible, même Nice s'en est pas aperçu, c'est dommage. Ils ont perdu un peu de temps, mais bon, voilà, il y a eu toute une période où on a accompagné vraiment les joueurs jusqu'au bout, ce qui induit sûrement un peu les deux, ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas la relève à ce moment-là, probablement pas. Il n'y avait probablement pas la relève. Faut jamais oublier que les Pays-Bas, c'est 20 millions d'habitants. Mmh. Vous êtes, et que vous pouvez, à un moment ou à un autre, travailler un petit peu moins bien qu'à d'autres périodes et ne pas sortir des joueurs. Ça peut arriver. C'est ce qui, visiblement, est arrivé aux Pays-Bas parce que les vieux, ils les ont tirés jusqu'au bout et que les jeunes étaient beaucoup trop jeunes puisqu'ils arrivent seulement maintenant. Les vrais bons, ils arrivent seulement maintenant.
Ouais, Depay, il a connu les deux. Les années, justement, oui, bon, avec les vieux. Et puis là, maintenant, Depay, il a pris le pouvoir.
Oui, bon.
Étienne?
Objectivement, ils ont aujourd'hui une équipe pour gagner parce que il y a l'homogénéité de l'Ajax, c'est ce qu'ils nous ont montré en Ligue des Champions. Il y a quand même une majorité de joueurs donc qui sont issus de cette équipe-là.
Six sur onze.
Et ils ont aujourd'hui aussi des joueurs de l'Ajax qui partent ailleurs, donc aussi apprendre à gagner. Mm-hmm. C'est le cas de Ligt à la Juve, ça va être le cas de Jong au Barça. Mm-hmm. Voilà, donc ils vont aussi apprendre d'autres choses. Donc c'est une combinaison magnifique pour commencer donc à réussir dans les grandes compétitions. Mais je dirais que c'est même pas nécessaire parce que là on va encore en faire les vieux combattants avec Philippe et peut-être avec Chérif aussi. Les Pays-Bas, on les aime aussi quand ils perdent. Sont des perdants magnifiques et ils ont marqué l'histoire de foot.
Trois finales de Coupe du Monde. Hein,
voilà. Et on s'en souvient et on se souvient évidemment davantage, par exemple, des Pays-Bas 74 que de l'Allemagne finalement qui était championne du monde parce qu'ils apportent quelque chose au foot et même quand ils perdent, bah, finalement, ils ont apporté quelque chose au foot et c'est déjà pas mal.
Mm-hmm. Frédéric?
Non, mais ça fait plaisir effectivement de les revoir. Hein, rappelons que les Néerlandais n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde. Hein. En Russie, ils ont su rebondir, ressortir ces jeunes, c'est ce qu'on vient de dire. Et finalement, c'est comme si, c'est peut-être un peu old school, mais c'est toujours le même cycle. Hein. Oui, on part de la base, les jeunes, l'Ajax, qu'on voyait plus trop en Ligue des Champions, qui, paf, arrive en demi-finale. Et là, on a l'impression que pour 5-6 années, le prochain Euro, la Coupe du Monde en 2022, alors il faut se qualifier bien évidemment, mais il y a vraiment une génération dorée, qui devrait faire des dégâts et qui peut prétendre, oui, à un titre de champion d'Europe, de champion du monde. Hein.
Il y a aussi Koeman qui représente un peu la synthèse des grands clubs, parce qu'en tant que joueur entraîneur, il les a pratiquement tous faits aux Pays-Bas. Il s'est aguerri évidemment au Barça. Et par contre, bon, il n'hésite pas à avoir lancé les jeunes justement quand il est arrivé. Et puis voilà. Mais sinon, c'est ce qui est surprenant avec cette équipe, elle change de système de jeu, elle change de joueur, elle modifie. Il y a toujours l'identité. De toute façon, on en revient toujours ça avec les Pays-Bas. Ils ont joué le match d'avant, c'était contre l'Allemagne. Ils ont joué en 3-5-2 ou 5-3-2. Enfin bon, bref, le match d'après hier soir contre l'Estonie, ils sont repassés en 4-3-3. Il y a toujours une fluidité tactique. On a changé des joueurs, mais de toute façon, le style ne change pas. Il y a une identité de jeu, il la perpétue et c'est ce qui sauve le championnat des Pays-Bas.
Il semble y avoir un bon état d'esprit parce qu'il a toujours donc coûté pas mal de grandes compétitions aux Pays-Bas. C'est l'ambiance et donc les rivalités donc perpétuelles à l'intérieur du groupe. Mmh. On a le sentiment, même si je suis pas le meilleur spécialiste actuel donc du vestiaire néerlandais, mais que ça semble en tout cas plutôt du passé et que il a l'air d'avoir une bonne cohésion avec Captain Koeman.
Parce qu'il y a des leaders incontestés, incontestables. On avait du mal à obéir à des vieux Van Persie, à des vieux Robben, plutôt que voilà. t'as un mec comme Virgil van Dijk, t'y crois, Depay c'est le leader offensif, voilà, t'as envie de les suivre ces mecs-là, c'est de vrais leaders, parce que c'est des leaders de jeu à la base.
Mm-hmm. Philippe Doucet, justement, Memphis Depay, nous on le voit beaucoup, puisqu'on le voit toutes les semaines avec l'équipe de Lyon, et puis on a l'impression que quand même, quand il est sous le maillot orange, c'est un autre joueur, qu'il est transformé, non mais... alors peut-être que le jeu s'adapte mieux, ou
peut-être
que lui
qu'il choisit ses
mieux.
Matchs aussi, peut-être, ouais. Parfois.
Un petit peu.
Je pense.
Alors, je voulais savoir, je pense pourquoi ce
le statistique, Annie, 9 buts, 11 passes décisives depuis 18 mois en sélection, oui. Pour Depay.
Mmh. Il est incroyable.
Bon, en sélection, c'est peut-être plus facile de marquer grand club. Je vais enfoncer une porte ouverte qui ne fait pas plaisir aux gens, mais alors, malgré tout, c'est génial de dire que Giroud marque
contre
énormément.
Oui, mais là, par exemple, contre l'Allemagne, il a marqué Depay aussi.
Oui, mais en sélection, on marque, parce qu'il y a des écarts de valeur qui sont plus considérables qu'ailleurs. Mais en dehors de ça, Depay, oui, je pense que c'est un garçon qui choisit ses matchs, dont la passion est, pour le foot est peut-être un petit peu olé olé, enfin elle est un peu elle monte, elle descend selon l'intérêt qu'il a par moment. J'ai vu des mois très faibles de Depay et des mois où on se dit ben, ce garçon-là il devrait être parmi les meilleurs au monde, et puis le mois suivant il est zéro. Mmh. Donc je pense que c'est un garçon qui vraiment a toutes les capacités pour, mais qui,
il
y a une manque de continuité visible, et par contre il n'y a pas ce manque de continuité en sélection, donc comme s'il choisissait ses matchs, peut-être, oui, le terme d'Étienne est peut-être le bon, et puis je pense que c'est un type qui a un ego surdimensionné et qui n'a pas compris sa chute, c'est-à-dire il n'a pas compris qu'il pouvait être non seulement viré par Manchester United, mais pas repris par un autre grand club. Il a pas compris.
Mmh. Donc oui,
aujourd'hui, il est en quête. Il fait des appels du pied des grands clubs, etc. Il y en a pas un qui répond, parce que quand on a échoué à United, ça se voit.
Ça pose question.
Oui, puis tout le monde entier l'a vu.
Ouais.
Et donc, les matchs de sélection, à mon avis, lui servent de tremplin pour rejoindre un petit peu son ego là-haut et que enfin le monde entier reconnaisse sa grande valeur.
Il peut utiliser quelques matchs de Ligue des Champions de Lyon, ça peut servir aussi.
Ça peut servir aussi, mais ça se voit moins.
Le problème de Depay à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il veut à tout prix jouer neuf. Alors que c'est pas un neuf, c'est un deuxième attaquant, c'est un électron libre, c'est un joueur de couloir, c'est tout ce qu'on veut.
Bon, un joueur qui joue en protéine. Bon.
C'est un attaquant, mais c'est pas un numéro 9. À Lyon, on est vraiment, c'est le système de jeu, on joue avec un vrai numéro 9 qui marque des buts de Benzema jusqu'à Dembélé aujourd'hui. Mm-hmm. On est attaché à ça. Lui, c'est ce qu'il veut être. Le problème, c'est qu'il dézone toujours. Il va sur les côtés, il aime bien jouer en soutien et ça. C'est parfait. En équipe des Pays-Bas, il peut le faire. Il est bon entre le match de samedi soir et le match d'hier soir, il est passé il était attaquant, hier il était numéro 9, mais je suis désolé, c'est pas lui qui marque, il est pas dans la surface. Il aime bien un peu virevolter un peu à droite à gauche. À Lyon, non. On joue avec un vrai numéro 9. Donc si tu es 9, tu es dans la boîte, tu attends et tu as la finition. Il sait le faire, mais le problème c'est qu'il dézone beaucoup, il veut être un peu partout. Le problème c'est qu'il le fait très bien. Alors avec les Pays-Bas, voilà. Il est un peu où il veut, il va un peu où il veut, on le laisse faire, il est électron libre. Et à Lyon, on ne veut pas. Et puis, voilà, il y a déjà Fekir, il y a déjà Aouar. Donc,
il n'y a plus Fekir.
Hein? Non, mais je veux dire, bon, là, on commence une nouvelle saison. Mais voilà, c'est pour ça. Et je pense aussi qu'il choisit ses matchs à l'Olympique Lyonnais.
Bon. Et bien voilà pour ce qui est,
tout simplement,
en tout cas, de cette équipe qui nous enchante quand même à chaque fois qu'il y a un match. On a envie d'aller regarder, même contre l'Estonie.
Non, mais c'est sublime, hein, le match contre l'Allemagne.
Contre l'Allemagne, oui. Et puis aller battre les Allemands. Bon, ils s'étaient fait battre par les Allemands chez eux. Donc,
mais les deux matchs sont sublimes.
Oui.
Même contre la France.
Ça un Euro 2020 passionnant. Pays-Bas, mais Belgique, France.
C'est eux qui ont fait le spectacle en Ligue des Nations aussi, si je me souviens bien.
Bien sûr.
À la Ligue des Nations, c'était
eux aussi. Ils l'ont gagné, oui.
Non. Comment ça, ils l'ont gagné?
Mais ils ont gagné la Ligue des Nations.
Non, ils l'ont perdu face au Portugal.
Portugal.
Ah bon?
Chez eux, au Portugal.
Ah bon?
Non,
ils ont caché ça.
Ils ont battu.
On va cacher ça, mais c'est honteux.
Ils ont battu l'Angleterre.
Voilà, c'est ça.
Ils avaient raté la phase finale.
Mais après, ouais, c'était un but à zéro, hein, je me trompe pas, Chérif. Hein. Et c'était, mais bon, malheureusement, ils avaient encore perdu. Allez, on continue. Noël Le Graët cible des associations durant luttant contre l'homophobie. Le président de la Fédération française de football avait déjà déclaré ces derniers jours qu'on arrêtait trop de matchs pour des manifestations homophobes dans les stades depuis le début de la saison en Ligue 1 comme en Ligue 2 dans les championnats de France. Et il a tenu à préciser ses propos ce matin chez nos confrères de France Info.
Les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je l'ai remarqué, vous savez, au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une période où il y avait des fumigènes partout. pris la décision à un moment ferme de m'attaquer à ce sujet. Il n'y en a plus. Je pense qu'il faut en parler, de ce qui est fait, mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas. Pour quelques personnes que je n'apprécie pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles. C'est différent. Mais arrêter le match, non.
Arrêter le match, non, a dit Noël Le Graët, qui avait aussi ajouté qu'il arrêterait un match pour des cris racistes et qu'il arrêterait aussi, il ferait arrêter bien sûr, un match pour une bagarre ou des incidents mettant en sécurité les tribunes. Mais aujourd'hui étant le jour où les ministres répondent aux questions faites par les députés, donc, eh bien, la ministre des Sports française, Roxana Marcinéanu, a répondu en disant la position qu'a prise Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme est erronée. Alors, messieurs, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Étienne Moati, est-ce que arrêter à chaque fois un match est une bonne manière de combattre l'homophobie dans les stades? Parce que c'est ça la question à laquelle semble où prend position Noël Le Graët.
Bah, je pense qu'on a commencé très fort donc sur la saison de Ligue 1. Il y a eu beaucoup d'interruptions de matchs.
Ça a commencé en Ligue 2 et
voilà,
puis...
Et on a senti qu'il y avait une escalade qui était en train de se mettre en place et on savait plus très bien où est-ce que ça allait s'arrêter, puisqu'à partir du moment où vous arrêtez un match, la suite logique, si ça continue, c'est vous l'arrêtez définitivement. Ensuite, les commissions de discipline doivent aussi sanctionner. Donc, évidemment, fermer des tribunes, fermer peut-être des stades, après retirer des points. Est-ce qu'on voulait en arriver là? J'ai l'impression que c'était pas réellement le cas et donc on a essayé un petit peu de rétro-pédaler. Donc, c'est ce qu'essaie de dire peut-être un petit peu maladroitement Noël Le Graët. Maintenant, sur ses déclarations, ce qui est extrêmement gênant, c'est qu'il semble faire une différence entre racisme pour lequel il faudrait arrêter le match et homophobie pour lequel il ne serait pas nécessaire d'arrêter le match. Donc là, sur ce terrain-là, il ne faut évidemment pas le suivre. Mais c'est vrai que la complication, c'est que les supporters sont des petits malins et qu'à partir du moment où vous essayez de leur interdire quelque chose, eh ben,
il a un peu raison quand il dit ça aussi.
Ils en rajoutent trois couches et donc aujourd'hui, on est un petit peu pris au piège au niveau du football français.
Pas trois couches d'homophobie. C'est trois couches du
monde. Non, mais on sent bien que la fédération, la ligue, se disent, si on continue comme ça, voilà, tous les week-ends, on va avoir la moitié des matchs qui vont être interrompus et ça va devenir ingérable. Hein. Donc, oui, il a pris les devants, mais il se prend au piège lui-même. Hein.
Mais Le Graët est un homme de football, il connaît très bien. Il est président de la fédération, mais pas que. Il n'est pas venu par la politique ou par des petits clubs ou je sais pas quoi. Il a été président de la ligue, il a été président de Guingamp, il a monté ce club jusqu'en. En division 1, c'est un homme de foot, il a répondu en homme de foot. L'homme de foot, il sait pertinemment que c'est pas en arrêtant des matchs et c'est pas en provoquant les supporters qu'on résout le problème. Mais pas une demi-seconde. Je veux dire, la solution est d'une inefficacité totale. Les politiques peuvent toujours ouvrir leur gueule. Les associations peuvent toujours profiter, foncer comme des sangsues sur le premier qui ouvre sa bouche là-dessus. Ils peuvent y aller. Bien sûr, c'est leur métier. Ils savent faire. Hein. Ça, ils savent faire. Mais tout ça, c'est du bidon. Je veux dire, si ça résolvait un pourcent du problème, on serait d'accord pour arrêter les matchs. On sait tous que c'est d'une inefficacité totale. Et plus grave, ça provoque. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu ces superbes déclarations politiques, il faut faire ci, il faut faire ça, etc., que les arbitres ont foncé dans le panneau comme des idiots pour faire plaisir.
On leur a donné un peu l'ordre aussi aux arbitres.
Pas du tout. Les arbitres ont pris les instructions de l'UEFA et se sont dit, nous...
ministre a parlé quand même.
Oui, voilà. Ça, oui. Mais ils ont pris les ordres, pas dans le football. Ils ont pris les ordres ailleurs. Enfin, aussi à l'UEFA, mais bon, vraiment pour failloter, enfin bon, peu importe. Allons pas là-dedans, ça n'a pas grand intérêt. Et depuis qu'on en est là, c'est pire que jamais.
Ben oui, c'est
l'impasse, que les supporters en ont profité. Les supporters ont des vraies revendications en ce moment. Ils en ont marre des interdictions de stade, ils en ont marre ils en ont marre de cela. Et ils
se
sont dit, on nous offre un terrain qui va nous permettre d'être vus, qui vont permettre de voir nos banderoles. Allons-y. Ah, c'est l'homophobie. Ah, très bien, on fait un truc sur l'homophobie. Demain, si c'est sur autre chose, c'est sur autre chose. Ils en ont. C'est vraiment. C'est un débat à la française où, encore une fois, le sport est pris en otage par des abrutis qui comprennent rien.
Shérif.
Moi, ce qui m'a intéressé dans tout le long des jours écoulés, des journées et des matchs, c'était la réaction des supporters, justement. Évidemment, on les a montrés du doigt, les supporters de foot, ils sont en dessous de tout, homophobes, racistes, xénophobes, toujours le même truc. Et en fait, la réaction, ça a été les banderoles. Mais les banderoles, ils ont tu as raison, ils en ont racheté trois couches, mais c'est trois couches d'humour.
Mmh. Oui, il y en a bien. Certaines qui sont
c'est
vraiment,
pas trois couches d'homophobie.
Amusantes.
Donc, on se calme. Comment dire, ils le disent eux-mêmes, on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe. Il y a d'autres problèmes, comme tu l'as dit, Philippe. On répond. L'interdiction, c'est pas la solution, voire même, ça peut être contre-productif. Maintenant, on va bien poser les problèmes à la fois du racisme et de l'homophobie. C'est nouveau. Là, il y a une vraie prise de conscience, comme chez, avec les mouvements féminins, MeToo et tout ça. Il y a une prise de conscience. On va pas tout résoudre du jour au lendemain par l'interdiction, par les sanctions. On débat.
Il faut un travail de fond et d'information.
Il y a un travail de fond. Maintenant, il doit être fait. Moi, je suggère un moratoire pour ce genre de choses. Alors, pour le racisme, là, par contre, il y a urgence. Non, là, il y a urgence. On est d'accord. Il y a urgence. Notamment en Italie, c'est bon. L'homophobie, c'est quoi? C'est souvent du vocabulaire. Du vocabulaire qu'on a tous utilisé dans notre vie. C'est, voilà. Après, je vais pas dire de gros mots, mais bon, voilà. Il y a des mots, qu'on a interprétés comme forcément homophobes. Non, je suis désolé. Sur la canebière, bon, je vais pas plus loin. Bon, voilà, ça fait partie du langage courant. Il y a des gens qui nous expliquent que c'est de l'homophobie.
Oui, voilà. Le problème aussi.
On s'arrête un peu là.
Etienne, un arbitre sur un terrain doit juger si le mot est vraiment homophobe ou juste une insulte. Ou c'est ça aussi qu'on a offert un arbitre qui a quelques secondes pour prendre une décision d'arrêter ou pas un match.
Il y a tout un protocole qui est prévu. C'est-à-dire que dans un premier temps, il doit faire une interruption très courte du match. Donc, s'il considère que ce qui est en train de se passer dans les tribunes est suffisamment important pour avoir une incidence un petit peu et sur le match et sur le climat donc dans l'enceinte et puis ensuite faire une annonce jusqu'à éventuellement donc un arrêt définitif du match. Alors moi je vous suis évidemment, le football est pas plus raciste et pas plus homophobe que le reste de la société, mais il y a quand même du racisme et il y a quand même de l'homophobie aussi dans les stades.
Non,
et que le nier complètement
c'est pas non plus
productif.
Ce n'est pas ce qu'a fait Noël Le Graët d'ailleurs.
Non, mais
lui, il s'est prononcé contre les arrêts des matchs. Il a pas dit l'homophobie, on s'en fout.
Oui, mais
bon, il a été maladroit quand même en faisant la différence avec le racisme. Je suis d'accord avec.
Il a établi une hiérarchie en fait.
Oui.
En tout cas, la ministre, rajoutons aussi cela, elle a dit tout à l'heure au Parlement, pour être clair, Noël Le Graët m'a fait un procès en légitimité dès que j'ai parlé de ce sujet, que ce soit une femme qui parle de football, une nageuse qui parle de football. Mais oui, mon rôle de pouvoir public, mon rôle de ministre, c'est de veiller à la protection de tous nos citoyens.
Alors, non, mais
ça se déplace aussi.
Elle fait référence parce que sur la première intervention donc de Noël Le Graët, quand elle s'était exprimée, elle était venue au Parc des Princes, elle avait entendu donc quelques chants donc qu'elle avait trouvé homophobes, et Noël Le Graët, pour lui répondre, lui avait dit mais c'est vrai que comme vous étiez nageuse dans les piscines, on n'entend pas ce qui se dit dans les tribunes, hein, donc je crois que ça fait référence à ça là.
Non, mais
la
c'est
sortie
sûr
de la ministre.
Il est maladroit dans ses déclarations.
Oui, mais alors si derrière tout ça, il y a des petits règlements de compte, des petites phrases.
En plus,
ça va être un feuilleton durant toute la saison. Hein,
non, mais il y a des effets de masse dans un stade, on se retrouve tous au niveau du plus con. Donc voilà, c'est j'excuse pas la bêtise, il y a certaines choses que je n'excuse pas.
Mais il n'y a pas de fatalité. Hein. Je signale juste que les Anglais résolvent ce genre de problème par des méthodes que nous, on ne sait pas faire.
Que moi, je désapprouve.
Que tu désapprouves sûrement, que beaucoup de supporters désapprouvent.
Non, mais moi, des brigades...
Mais les gens gênants, ils les virent.
D'accord. Non,
mais... l'interdiction de stade, on identifie les gens.
Il les
vire. Pour certains comportements. Non, mais après...
Ils les virent, et c'est peut-être plus simple que de se retrouver chaque semaine avec des gens qui font des saluts nazis. Enfin, je parle pas de la France pour l'instant, mais enfin, ça peut revenir. Ça a existé.
Pas de problème.
Les Italiens, les machins.
Des brigades.
Et tous les clubs connaissent ces gens-là.
D'accord.
Les polices connaissent ces gens-là. Okay. Est-ce que c'est pas plus simple de les virer plutôt que, bon, moi, je pose la question.
D'accord. Tout. Mais alors, des brigades qui, à ton insu, se baladent à travers les tribunes et tout ça, parce que, voilà, il y a un mot qui t'échappe, il y a un geste qui t'échappe. Je parle pas du salut nazi. Je veux dire, voilà, un doigt d'honneur ou alors des insultes à l'arbitre et tout ça. Pardon, monsieur, excusez-nous, veuillez nous suivre au commissariat.
Non, mais ça, c'est la version française.
Voilà.
La vraie version, c'est des caméras et tu connais par cœur ces groupes-là, les groupes de 50 personnes et autres, tu les connais par cœur depuis toujours. Que ce soit à l'Inter, à la Lazio, en France, tu les connais depuis toujours.
Je suis d'accord.
Il se trouve qu'en France, on est beaucoup plus fort pour parler que d'agir, donc on fait des tas de discours, les politiques sont merveilleux d'inefficacité avec des mots.
Il maîtrise
très bien les mots.
Philippe, il y a eu des programmes, par
exemple. Oui, mais il a fallu une négociation, il a fallu des tas de choses pour arriver, et il a fallu un mort pour arriver à virer
les
excès qu'il y avait à Boulogne et à Auteuil au Parc des Princes. Il a fallu des tas de choses.
Bon, ben apparemment, on y reviendra à ce sujet à suivre. Il fut un très grand joueur de football, un numéro 10 d'exception qui lui a valu d'ailleurs 2 demi-finales de Coupe du Monde, 3 ballons d'or entre 1983 et 1985. Son aura l'avait porté vers l'organisation du football européen, l'UEFA, puis à la FIFA, où sa course vers la succession de Joseph Blatter fut arrêtée en plein vol. Évidemment, je parle de Michel Platini. Sa suspension de toute activité liée au football est dictée par la FIFA en 2015, s'achèvera le 7 octobre. Et Michel Platini prépare donc son retour. Un livre va bientôt sortir. Et puis, il a expliqué à nos confrères de la chaîne suisse, Radio Suisse Romande, eh bien, qu'il compte revenir.
J'ai 64 ans. Pendant 50 ans, je me suis consacré au football. Et pendant 4 ans, là, j'ai eu des vacances. Mais c'est pas mal du tout, je vous le dis.
Vous avez envie de revenir, bien sûr.
Je reviendrai. Ouais. Je sais pas où, je sais pas comment. Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis, une suspension comme ça. Je ne peux pas rester là-dessus.
Vous êtes dans le pays, France, c'est le pays de Napoléon. Voilà, le mythe du retour, je reviens, je me présente, je prends une présidence, ça vous habite forcément.
J'ai plus 40 ans ni 50 ans, j'ai 64 ans, je prendrai le temps, je verrai qu'est-ce qui sera le mieux pour moi et pour ma façon de vivre avec ma famille.
Si on vient vous chercher?
C'est différent.
Michel Platini, donc, l'homme blessé, rancunier aussi, quand on écoute ses propos. Étienne Moati, il va revenir, selon vous, il peut revenir?
Oui, il peut évidemment revenir. Vous l'avez dit, la suspension donc s'arrêtera début octobre, après revenir, mais pourquoi faire? Parce que quand il a été suspendu, donc il visait la présidence de la FIFA, c'est-à-dire le sommet du football mondial. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris cette place-là et qui vient d'être élu pour 4 ans. Il s'appelle Gianni Infantino. Il était juste avant président de l'UEFA.
Il a peut-être qui pas vient envie d'être... de retourner à la FIFA quand même, Michel Platini, là.
Et s'il veut venir prendre la présidence du club de mon quartier, il est le bienvenu. On a besoin d'une figure charismatique comme lui.
Comme Diego Maradona dans son club.
Je pense que la difficulté pour Michel Platini va être de trouver d'abord une envie pour lui et puis une fonction à sa dimension, parce qu'il a occupé à peu près toutes les fonctions possibles dans le football aujourd'hui. Et c'est ça un petit peu son problème, c'est que derrière il y a une forme de vide. Il se demande bien qu'est-ce qu'il peut faire dans le football qui soit à sa dimension, dont il a envie. Parce que c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'à l'envie. Vous lui ferez pas, et Philippe le connaît bien aussi, faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire à Michel Platini. Donc c'est là la difficulté. Après, au niveau français, on évoquait tout à l'heure Noël Le Graët, qui arrive en fin de mandat dans un an et demi. La présence de la Fédération française, je ne crois pas qu'en l'état ça l'intéresse, mais je pense que ça pourrait être éventuellement pour lui un bon rebond.
Philippe Doucet?
Oui, c'est le même constat que Étienne. Que Michel Platini peut-il faire dans le football,
dans le club de Nancy?
Alors oui, à la limite, ce serait tellement décalé que ça, c'est faisable. Voilà. Par contre, Étienne a raison, devenir président de la Fédération française de foot, Michel,
politique.
Aucun intérêt.
Mais
non,
quand
même, taper des déjeuners avec Deschamps.
Philippe n'a qu'une envie, c'est de laver son honneur.
Il a goûté à autre chose, Michel, le président.
Il y a un côté rancunier quand même.
C'est difficile, la présidence.
Non, mais sur son honneur, surtout.
C'est pénible. Il y a des côtés pénibles à la présidence de la Fédération française de foot. C'est plus, à la limite, l'UEFA est plus valorisant, la FIFA est plus valorisant. Revenir à l'UEFA, c'est ça qui est une interrogation pour quelqu'un de cette dimension-là. C'est que, franchement.
Vous pensez qu'il n'a pas de réponse?
Je pense pas qu'il ait de réponse immédiate. C'est une opinion purement personnelle, mais il devrait viser quelque chose de complètement décalé. Mm-hmm. Soit via une fondation, dire bon voilà, tout ce qui est aujourd'hui à la tête du football travaille dans le mauvais sens. Mm-hmm. Moi, je vais expliquer ce qu'il faudrait faire et je vais agir auprès d'une manière ou d'une autre, à travers une fondation, à travers une association, à travers quelque chose, et je vais agir auprès de l'Europe pour. C'est pas normal, depuis Bosman, c'est le bordel total, ça a foutu tout en l'air, les transferts, etc. La FIFA, la UEFA veulent pas s'en occuper, moi je vais m'en occuper et je vais agir.
Proposer quelque chose.
Ce genre de choses, ça me semblerait la dimension de Michel Platini. Président de Nancy, ouais, serait complètement décalé, pourquoi pas. Ça me ferait marrer aussi, c'est complètement différent, mais ça me ferait marrer aussi.
Non, mais qu'il ait envie de revenir, c'est une chose, il a 64 ans, il le dit, mais est-ce que tout le monde a envie qu'il revienne? C'est la question aussi, hein. Alors, s'il doit être élu à une instance, président de je ne sais quelle association. Il a été lâché par pas mal de monde hein, quand même depuis 4 ans, Michel Platini.
Attends,
shérif. Le shérif du jour.
Objection, objection, votre honneur. Bon, alors déjà, la référence à Napoléon, non, Napoléon, ça a mal fini. Non, non, c'est plutôt le comte de Monte Cristo, il va tous les avoir un par un, il veut se venger.
Et il n'a jamais marqué au Stade de France, mais au Parc des Princes, que de vue.
Alors, Michel Platini, quand même, depuis qu'il a été mis sur la touche, de façon un peu brutale, et puis vraiment suspendu de tout, les humiliations aussi. Interdiction d'être à telle finale, à tel stade, de ne pas s'approcher comme s'il avait un bracelet électronique. Donc déjà ça blesse un homme. Je trouve qu'on l'a humilié de façon absolument...
Ça se sent dans ses propos.
Non, c'est immonde.
C'est très court, mais ça se sent.
C'est immonde. C'est immonde. Il peut même pas aller au stade voilà, quand il y a une finale.
Bon, bref. Une fois,
ça c'est pour... je parlais du comte de Monte Cristo. Ensuite... c'est quoi les derniers développements du football sur certains points ces dernières années? Il était contre le VAR, la VAR. Il n'a pas entièrement tort. Il avait bien prévenu qu'il y aurait des problèmes, que ça se passe pas comme ça et tout. Donc, le VAR. Le racisme, il me semble dans mes souvenirs que lui, il était prêt à prendre des mesures assez drastiques. Je pense même qu'il avait parlé d'interruption des matchs. Il a raison. Il avait parlé aussi,
le fair play financier.
Oui, voilà, le fair play financier. Et puis surtout, il avait bien prévenu que tant qu'il serait président de l'UEFA, il lutterait à la mesure de ses moyens, parce qu'en face, c'est pas n'importe qui, contre les clubs puissants. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les clubs puissants, l'année dernière? Ils nous ont proposé une réforme.
Ils ont failli, oui.
Voilà ce que je veux dire. Ils ont quasiment fait un coup d'État. Je suis désolé, mais Michel Platini, une fois de plus, dans la mesure de ses moyens et de ses pouvoirs, il a essayé de contrer ce qu'on a appelé avant le G14, le G18. Donc là aussi, il est en retour de légitimité. Et enfin, pour une Coupe du Monde à 48 équipes, je pense pas que c'était dans ses projets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Il s'est passé que par rapport à certaines de prises de position, il était plutôt dans le vrai. Maintenant, vous dites qu'il a pas d'appui, ceci, cela, etc. Non, je pense que Michel Platini a laissé l'image d'un ancien joueur de football dans le monde du football. Et il y a beaucoup de dirigeants actuels de fédérations qui sont anciens footballeurs. Il a laissé la marque d'un ancien footballeur qui, lui, connaît un peu le monde du foot, qui connaît un peu la montée du foot, notamment sur les calendriers excessifs. Moi, je pense que là-dessus, Michel Platini, il a encore des choses à dire. Maintenant, est-ce qu'on
veut les dire?
Voilà, non, mais sur les sujets vraiment importants, il a pesé, il a donné son point de vue. Mmh. Et sur certains, il a eu raison. Maintenant, le truc, c'est qui veut de lui et c'est quoi la grosse machine qu'il va avoir en face? Lui, il veut revenir et je pense qu'il a des idées. Ça va être très dur.
Etienne?
Oui, il y a beaucoup de fraîcheur dans les propos de shérif. On aurait envie de le suivre, mais pour connaître un petit peu les organisations internationales, pensez...
C'est la position sur foot, vous le savez aussi.
Pensez, considérer qu'aujourd'hui, Michel Platini bénéficie de beaucoup d'appui et de soutien, que ce soit au sein de l'UEFA ou au sein de la FIFA. Malheureusement, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Non. Il y a deux jeunes dirigeants qui sont à la tête de ces organisations, qui sont de très bons politiques et il y a assez peu de courage dans le football. Donc pour revenir à ce niveau-là, ce serait extrêmement compliqué.
Moi, je parlais des fédérations.
Ouais.
C'est des fédérations.
Oui, mais les fédérations, c'est elles qui composent ces organisations-là.
Je pense qu'il peut peser autrement dans les débats. Quand on voit le débat qu'il y avait aujourd'hui, du reste, à Genève... au sein de l'ECA sur les Coupes d'Europe, la suite du débat sur la réforme des Coupes d'Europe.
Ah, tu vois.
Et ben, dans ce genre de débat, je pense que Platini, là, il peut intervenir.
Ça c'est certain.
Il faut trouver la forme.
Il faut trouver aussi peut-être le message parce que, il s'agit pas pour lui, à mon point de vue, de revenir avec beaucoup de rancune, mais plutôt avec des idées.
Non, mais il peut pas revenir en numéro 8. S'il revient, il viendra en numéro 10.
Très bien, cher
Guillaume.
Merci beaucoup. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno à la réalisation et Ralph Samoury qui nous a aidé aussi. À demain.